VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Le Monde Aujourd'hui de ce vendredi 10 janvier 2020. Ravi de vous retrouver au microphone. Je suis Irénie Armanongba en compagnie de
Anne Albertson pour vous présenter ce journal.
À la une de l'actualité, 25 soldats nigériens sont morts hier dans une attaque contre un camp militaire à la frontière malienne. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place.
Au Mali, le procès d'Amadou Aya Sanogo et co-accusé a été renvoyé à une nouvelle session.
Brazzaville s'effrite sous le poids d'une pluie diluvienne. La capitale congolaise enregistre une série de dégâts matériels. Nous en parlerons dans notre page magazine.
Feu vert pour Boris Johnson. Les députés britanniques ont approuvé le texte difficilement conclu par le Premier ministre avec l'Union européenne.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais tout d'abord le journal.
Au Bénin, des affrontements entre la population et les forces de sécurité ont éclaté hier à Savé, dans le centre du pays, bastion de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, principal adversaire du président Patrice Talon, selon des sources locales. Plusieurs résidents inquiets ont rapporté que la route inter-État Cotonou-Savé, axe principal du pays, est restée barricadée tout au long de la journée et ils ont fait état d'échanges de tirs dans la soirée.
Des voyageurs en route vers le nord du pays ont dû rebrousser chemin, craignant d'être pris à partie. Aucun véhicule ne circulait dans les deux sens, selon des témoins. Les affrontements ont commencé à la suite de l'interpellation d'un individu par la police. Rappelons que la commune de Savé avait enregistré de violentes manifestations à la suite des élections législatives contestées d'avril 2019, auxquelles les partis d'opposition n'avaient pas pu se présenter.
25 soldats nigériens sont morts hier dans une attaque contre un camp militaire situé à la frontière avec le Mali. L'attaque a été menée par des hommes armés à bord de motos et de véhicules. 6 autres militaires sont blessés, selon le ministère nigérien de la Défense. Les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon un communiqué du ministère de la Défense, lu à la télévision nationale, 63 assaillants ont également été tués dans cette attaque lancée aux environs de 14 heures jeudi par des éléments terroristes venus à bord de motos et de véhicules contre le camp militaire de Chinagodré, situé à une vingtaine de kilomètres de la frontière malienne. Le communiqué note par ailleurs que la riposte a été menée par les moyens aériens et terrestres de l'armée nigérienne appuyée par ses alliés. Le village de Chinagodré appartient au département de Banibangou, un des 10 départements de la région de Tillabéri sous état d'urgence depuis 2018. Cette attaque intervient presque un mois après celle plus meurtrière d'Inates, qui s'est soldée par la mort de 71 soldats nigériens et à la veille du sommet de Pau qui va réunir les 5 chefs d'État du G5 Sahel autour du président français Emmanuel Macron. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, la cour d'appel de Bamako a renvoyé le procès à Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés à une nouvelle session. Ils sont accusés dans l'affaire de la disparition de 21 militaires bérets rouges. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Le procès de Amadou Aya Sanogo et co-accusé devrait s'ouvrir le lundi prochain. L'audience devrait se tenir à Bamako. L'ex-chef de la junte et ses co-prévenus sont accusés dans l'affaire de la disparition de 21 bérets rouges. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako indique qu'en raison des contraintes majeures liées à la préservation de l'ordre public et la cohésion au sein des forces armées mobilisées pour la défense de la patrie, le procès de Amadou Aya Sanogo est reporté à une prochaine session de la cour d'assises de Bamako. D'autres personnes indiquent que c'est le cas d'Ibrahim Dayrou Dembélé, actuel ministre de la Défense, qui a entravé la tenue de ce procès, car ce dernier doit se rendre à Pau le lundi prochain avec le président de la République dans le cadre de la rencontre entre le président Macron et le président du G5 Sahel. Il faut signaler qu'il y a 3 ans qu'il y a eu le renvoi de ce procès. Les juges avaient ordonné à la demande des avocats de la défense une nouvelle expertise médicale des corps des 21 bérets rouges, car la première n'ayant pas été conduite conformément à la loi malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, trois enfants d'une même famille sont morts hier dans l'écroulement d'une maison à Bukavu dans l'est du pays, ont annoncé des sources locales.
Les pluies abondantes provoquent de nombreux dégâts en RDC et dans les pays voisins depuis deux mois. En Angola, 41 personnes sont mortes ces derniers jours en raison des pluies torrentielles qui ont détruit 378 maisons et 12 églises. Nous parlerons du cas de Brazzaville dans notre page magazine.
En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a rejeté hier soir l'appel au cessez-le-feu lancé la veille par Ankara et Moscou, annonçant ainsi la poursuite de ses opérations militaires contre les forces loyales au gouvernement d'Union nationale. Les précisions de Nathalie Barge.
Tout en saluant l'initiative du président Vladimir Poutine, le maréchal Haftar a estimé que la relance du processus politique ne pouvait être réalisée avant le désarmement des milices à Tripoli. Le maréchal affirme que des groupes qui se sont emparés de la capitale reçoivent le soutien de certains pays qui leur livrent des équipements militaires, des munitions et des drones. Ces pays envoient aussi des terroristes ici, a-t-il ajouté, faisant allusion à la Turquie qu'il accuse d'envoyer des combattants syriens pro-turcs combattre en Libye. Le gouvernement d'Union nationale a de son côté salué l'appel à la trêve sans indiquer s'il allait s'y conformer. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine ont appelé mercredi à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye où leurs intérêts divergent pourtant. La Russie est accusée de soutenir le maréchal Haftar, tandis que la Turquie envoie des troupes en soutien au GNA.
L'Éthiopie et l'Égypte n'ont pas trouvé d'accord hier lors des dernières discussions sur le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu. C'est une source de tension entre les deux pays. Le point avec Eki Abalou.
Des responsables éthiopiens, égyptiens et soudanais ont mené deux jours de discussions à Addis Abeba sans parvenir à un accord, mais ont salué des progrès. Ils avaient déjà assuré de progrès le 22 décembre et de nouvelles discussions sont prévues la semaine prochaine à Washington. Le principal obstacle concerne le remplissage du réservoir du barrage qui peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint qu'un remplissage trop rapide ne provoque une importante baisse de débit. L'Éthiopie souhaite remplir ce réservoir sur une période de 4 à 7 ans. Ce grand barrage de la Renaissance est essentiel pour l'Éthiopie et devrait commencer à produire de l'électricité d'ici à la fin de l'année. Le Caire estime qu'une réduction du débit du Nil Bleu affecterait quelques 100 millions d'Égyptiens pour leur approvisionnement en eau. 9 années de négociations n'ont abouti à aucun accord. Lors d'une réunion en novembre, les trois pays se sont donnés jusqu'au 15 janvier pour y parvenir. Si aucun accord n'est trouvé, ils pourraient chercher l'aide d'un médiateur ou confier les négociations à leurs chefs d'État respectifs.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur, a affirmé jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau en s'appuyant sur des sources de renseignements canadiennes et alliées. L'Iran a aussitôt demandé au Canada de lui fournir ces informations, parlant de mise en scène douteuse.
Hier soir, l'agence américaine en charge de la sécurité des transports a annoncé que les États-Unis allaient participer à l'enquête sur le crash. La catastrophe qui a entraîné la mort de 176 personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, est survenu peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté hier une résolution pour limiter le pouvoir du président Donald Trump de lancer des opérations militaires contre l'Iran. Ce texte a été adopté par 224 voix pour et 194 contre. Trois républicains l'ont soutenu malgré les appels du président Trump à faire bloc contre.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, va rencontrer en début de semaine prochaine ses homologues du Japon et de la Corée du Sud, deux semaines après avoir été défié par la Corée du Nord. Selon un communiqué publié hier par le département d'État, cette rencontre aura lieu dans la baie de San Francisco en Californie, où Mike Pompeo se rendra de dimanche à mercredi.
Au Royaume-Uni, les députés ont finalement donné hier leur feu vert au Brexit voulu par le Premier ministre Boris Johnson. Il aura fallu 3 ans et demi de crise et de blocage après le référendum sur la sortie de l'Union européenne. Des détails avec Eric Manirakidza.
Ce vote aux conséquences historiques pour le Royaume-Uni est une victoire pour le Premier ministre Boris Johnson, champion du Brexit contre vents et marées. Les députés britanniques ont approuvé à 330 voix pour et 231 contre. Le texte est conclu difficilement par Boris Johnson avec l'Union européenne. Cet accord de divorce garantit notamment les droits des citoyens en réglant le casse-tête de la frontière irlandaise. Surtout, il vise à garantir un passage en douceur vers une relation future qui restait totalement à déterminer. Le texte doit maintenant être validé par la Chambre des Lords, puis promulgué par la Reine, ce qui devrait relever de la formalité. Restera alors au Parlement européen à ratifier le traité. M. Johnson va devoir s'atteler dès février en un temps record à une négociation difficile sur les nouvelles relations, notamment commerciales, entre Londres et les 27 de l'Union européenne. Et le Royaume-Uni deviendra le 31 janvier à 23h, heure de Londres, le premier pays membre à quitter l'Union européenne après 3 reports de cette sortie, initialement prévue en mars 2019.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Place à la Minute Eko avec Nanit Talani.
Le chanteur et producteur américano-sénégalais Ekon a décidé d'investir dans l'écotourisme sur la côte atlantique au Sénégal. Il a signé à Dakar un accord avec SAPCO, la Société sénégalaise d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques. Ekon entend ériger un complexe dans le village de Modiène au sud de Dakar et un porte-parole du ministère du Tourisme quant à lui parle de projet de village de tourisme durable. Le gouvernement ivoirien crée le fonds de garantie des petites et moyennes entreprises en vue de faciliter l'accès des PME au financement bancaire. Ce fonds garantira les crédits consentis par les établissements bancaires au PME national, dont le capital est détenu à concurrence de plus de 50% par des Ivoiriens. Il constituera aussi une garantie aux engagements par signature pris par les établissements bancaires en faveur des PME ivoiriennes. Pour terminer, le Fonds monétaire international a approuvé le décaissement d'une nouvelle enveloppe d'environ 16 milliards de francs CFA en faveur du Mali au titre de la facilité élargie de crédit, annonce l'agence Ecofin. Les fonds serviront à soutenir les politiques et les réformes face aux pressions des dépenses sécuritaires de plus en plus croissantes. Ils devraient aussi aider les autorités maliennes à soutenir la mobilisation des recettes, la gestion des finances publiques, la gouvernance, la lutte contre la corruption, ainsi que le redressement financier de la Compagnie nationale d'électricité. Le quitus du FMI a été motivé par les importants progrès réalisés par Bamako dans la mise en œuvre du programme, malgré de redoutables problèmes sécuritaires.
Nous retrouvons à présent Erika Manirakiza pour le sport. Erika, bonjour.
Bonjour, Irénée.
Harry Kane de Tottenham est absent jusqu'en avril.
Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, qui souffre d'une déchirure derrière la cuisse gauche, va devoir subir une opération qui va l'éloigner des terrains jusqu'en avril, a annoncé jeudi son club de Tottenham. La perte du buteur, qui a marqué à 27 reprises en 31 matchs pour Tottenham et l'Angleterre cette saison, est un énorme coup dur pour le club londonien, avant notamment la double confrontation en huitième de finale de Ligue des Champions contre Leipzig, 19 février et 10 mars. Les Spurs, actuellement sixième de Premier League, devront aussi faire sans leur buteur, phare lors de nombreuses affiches contre de grosses écuries anglaises. Liverpool, premier du classement, 11 janvier. Manchester City, troisième, 2 février. Chelsea, quatrième, 22 février. Et Manchester United, cinquième, le 14 mars. Harry Kane, qui avait été le meilleur buteur des qualifications à l'Euro avec 12 réalisations en 8 matchs, manquera enfin les matchs de préparation des Three Lions contre l'Italie et le Danemark en mars.
Dakar 2020, Sainz double la mise.
Le vétéran espagnol Carlos Sainz a rappelé qu'il faut compter sur lui sur le Dakar 2020 en remportant la 5e spéciale mercredi entre les grandioses rochers d'Al Hula et les terrains sablonneux de Haïl en Arabie Saoudite. Au général, le double vainqueur de l'épreuve 2010 et 2018 conforte son leadership. Il compte près de 6 minutes d'avance sur le Qatarien, 18 minutes sur son coéquipier chez Mini, le Français Stéphane Peterhansel.
Troisième de l'étape, après sa victoire la veille en embuscade, le tenant du titre Nassel Al-Attiyah a maîtrisé la première partie de l'étape avant de perdre du terrain sur la fin en naviguant à travers les herbes à chameau.
Retour ici aux États-Unis avec les résultats du jour de la NBA. Cleveland a battu Detroit 115-112. Boston s'est incliné devant Philadelphia 98-109. Portland, Minnesota 102-116. Oklahoma City s'est imposé face à Houston 113-92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irune et Herman Roubon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est ce soir qu'expire l'ultimatum de 48 heures lancé aux étudiants pour quitter le campus de l'université de Kinshasa après les heurts de lundi à mardi soldés par la destruction de beaucoup de biens et le décès d'un policier. Les étudiants ont quasiment vidé les lieux et la police annonce y avoir découvert des armes de guerre. Eddy Issango a joué à Kinshasa un étudiant en sciences politiques et administratives de l'UNIKIN, Aaron Mukalenge.
C'est une décision qui n'est pas très bien réfléchie. C'est une décision prise par émotion suite à ce qui s'est passé à la date du 6 et du 7, c'est-à-dire les lundis et les mardis passés. Parce que les étudiants résidant au home ne sont pas auteurs des actes commis sur les sites universitaires suite à la revendication des étudiants. Nous avons très bien compris sa décision, mais le délai donné par le ministre n'est pas un délai qu'on peut donner aux enfants d'autrui, n'est pas un délai qu'on peut donner aux étudiants qui n'ont pas de famille à Kinshasa et même aux étrangers. Il a fallu qu'ils puissent très bien réagir avec les membres du gouvernement entier et même avec nos autorités académique pour voir comment raisonner et nous donner un délai raisonnable parce que le dégratissement ne doit pas se faire d'une manière forcée, mais c'est un consensus. 48 heures, c'est trop précipité et ce n'est pas la bienvenue chez nous, cette décision.
Vous revendiquez, pendant que des représentants des étudiants étaient dans la concertation qui a conduit à la majoration de frais.
Nous, étudiants de l'Université de Kinshasa, nous disons aujourd'hui que nous nous désolidarisons avec la coordination étudiantine. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit prendre des décisions en écartant les autres. La coordination, elle est là parce que nous, nous sommes là. Je pense qu'il n'y a plus de coordination étudiantine qui nous représente aujourd'hui.
En fait, qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Est-ce que c'est la décision d'augmenter le frais à payer ou quoi? Parce que vos représentants étaient là.
Cette hausse des frais académiques est due à quoi? C'est la grande question que tout étudiant de l'UNIKIN se pose. Parce qu'on a eu appelé les années passées le montant au taux de 90 francs congolais. Aujourd'hui, ils haussent les frais académiques, je ne sais pas, parce qu'eux aussi ne sont pas clairs. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont haussé les frais académiques ou ils ont juste changé les taux de frais. Alors, par rapport à ça, nous sommes mécontents parce que cette décision de nos autorités académiques n'est pas bien accueillie chez nous. Le ministre, dans sa décision, il a fixé les frais à 131 000 francs congolais pour les classes montantes. Mais arrivé à l'université, les frais connexes commencent à être dépassés jusqu'au délai des 400 000 francs. C'est en ce moment-là que nous avons décidé de manifester et voilà tout ce qui est arrivé après. Mais aussi la décision de guérir tous les étudiants dans les homes, c'est une décision que nous boycottons malgré que nous sommes des pacifiques, on a décidé de quitter de nous-mêmes.
Mais comment vous expliquez le fait que vous alliez jusqu'à casser, à brûler et même à vous attaquer à des policiers?
Il y avait une infiltration totale dans la manifestation des étudiants. Alors cette infiltration a fait que ces infiltrés puissent profiter derrière cette manifestation pour casser, détruire et saccager. Mais de nous-mêmes étudiants, nous condamnons aussi cette violence, nous condamnons ces actes de barbarie.
Aujourd'hui, la police dit avoir trouvé dans les homes des étudiants des armes de guerre. Comment vous expliquez cela?
Mensonge. En ce moment où je vous parle, il n'y a aucun étudiant dans les homes.
Aaron Mukalenge, étudiant en relations internationales à la faculté des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Je vous le disais en début de journal, le Congo-Brazzaville a enregistré une série de dégâts matériels à la suite des pluies qui ne cessent de s'abattre sur la capitale. Plusieurs quartiers sont menacés de disparition. Hier, une partie de la corniche du fleuve Congo, le joyau de la ville, s'est effondrée. Le point avec notre correspondant Arsène Séverin.
La plupart des quartiers périphériques de la capitale sont frappés par les érosions, les ensablements et les inondations. Les habitants du Bakabandilou, quartier nord de Brazzaville, sont désespérés.
Le quartier s'est organisé à payer les bâches, à payer les sacs. On aura à planter les bambous de Chine, les bambous ratés et plus les bétivers. Si ce n'était pas l'organisation du quartier, Bakabandilou partait déjà.
Dans les quartiers sud, les habitants d'Infilou craignent d'être engloutis en même temps que le chemin de fer qui passe par là.
Les canalisations sont gaspillés et tout. Les eaux ne circulent pas bien. Si vraiment l'État congolais peut nous entendre.
Le danger est en train même d'attaquer le chemin de fer. Alors je crois que le pire va y arriver.
Il y a aussi eu des travaux du CFCO. Un matin, ils sont passés ici avec les engins. Mais malheureusement, ils n'avaient pas bien fait le travail.
Les pluies qui s'abattent depuis septembre dernier sur la capitale congolaise n'entendent ni prière ni grincement des dents des Brazzavillois. Au contraire, elles ont redoublé le trompe et les cordes à tel point que même le centre-ville a été touchée. Une partie de la corniche du fleuve Congo a cédé à la suite de la pluie qui est abondamment tombée dans la nuit de mercredi à jeudi. Un étudiant en géologie trouvé sur les lieux donne son avis.
Le sable a la capacité d'avaler l'eau. Mais où est-ce qu'on a mis le sable ici? On commence par le sable parce qu'en cas de, le sable peut aspirer l'eau. On a mis la latérite.
Pour le ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, qui a également fait le déplacement de la corniche, cette partie de la route, encore sous la responsabilité d'une société chinoise, va être réhabilitée.
L'expertise va se faire. La route a été réceptionnée provisoirement pour apprécier le comportement de cette chaussée. Il s'est passé donc ce glissement de terrain. À ce moment-là, l'entreprise va se mettre à pied d'œuvre après cette expertise, conforter donc de nouveau la chaussée. Ce sont des catastrophes naturelles. On a donc avec un peu de patience, on retrouvera de nouveau notre corniche.
Alerté par la rumeur, beaucoup de Brazzavillois se sont amassés à la corniche pour constater les dégâts de leurs propres yeux.
C'est un grand bijou, cette avenue de la corniche là, jusqu'à ma tour là. C'est un grand bijou, mais pour que ça puisse durer longtemps, il faut qu'il y ait une équipe de suivi.
Ça me dépasse. Là, c'est ici le goudron, mais ailleurs. Donc, ça dépasse, on ne peut même pas.
Hein, vous vous rendez compte, on fait sortir de l'argent au niveau du trésor pour faire des travaux. Bon, il n'y a pas de suivi. Les gens qui viennent, qui surveillent les travaux, je ne sais pas. Mais non, mais évidemment, mais c'est pas possible.
On ne peut pas situer les torts tant qu'on n'a pas vraiment les véritables informations.
À chaque pluie, ces dégâts, les experts affirment que la météo ne sera pas clémente les prochains jours, comme elle aurait dû l'être en cette période de petite saison sèche. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le ballet diplomatique s'est accéléré pour trouver une solution à la crise en Libye. La Turquie annonce l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Hier, Ankara et Moscou ont appelé à un cessez-le-feu en Libye le 12 janvier à 0h. Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, a salué cet appel sans dire s'il allait s'y conformer. Dans l'autre camp, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, n'a fait aucun commentaire. Est-ce qu'un nouveau cessez-le-feu est possible en Libye? Idriss Fall a joint à Benghazi le professeur Abdelkader Kadoura.
C'est très difficile à vous dire exactement s'il est réalisable ou non. Parce que l'action n'est pas encore claire sur le terrain. Parce que tout le monde, l'armée, elle attend qu'il arrive à un résultat concret. Et les autres aussi, ils comptent sur le retard pour recevoir encore d'aide des autres, de l'extérieur. Donc je ne sais pas trop comment ça passera, hein, franchement.
Ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, la Russie soutient indirectement Khalifa Haftar et la Turquie soutient directement le GNA.
Les choix, ils sont clairs. La Turquie est obligée de soutenir l'islamisme. C'est elle qui le soutient d'Ildebe. Contre la groupe de l'armée, qui l'a causé d'être de gauche, qui l'a causé d'être de liant avec la Russie. Et vous avez vu, la Turquie, elle a soutenu l'islamiste en Syrie, elle soutient l'islamiste partout. Parce que ça a beaucoup à dire ça, la symbolique de Erdogan. Je pense que le président Erdogan, il a besoin d'un véhicule idéologique dans le monde arabe, islamique. Alors il a tombé sur l'islamisme. le frère musulman surtout, il appartient à le frère musulman et il pense qu'il veut passer ses affaires par cette. Je sais pas si ça marchera.
Le Caire soutient Khalifa Haftar. Est-ce que c'est une raison de proximité ou bien c'est des raisons géostratégiques?
Le Caire et tout le monde arabe. Les grands risques pour eux, c'est l'islamiste. L'islamiste présente les grands risques de stabilité du monde arabe, surtout le pays qui actuellement ne sont pas très stables. L'islamiste, c'est des gens. C'est que vous connaissez ça, c'est un truc compliqué. Ils ont peur de tout. Ils ont la seule chose qui fait bouger les masses par le discours religieux. Si les masses, elles aiment bien, elles l'écoutent bien.
Maintenant, est-ce que les États africains ont leur mot à dire, comme par exemple l'Union africaine?
Moi, je pense que l'Union africaine, elle veut jouer un rôle important. Mais je pense qu'il manque les moyens sur le terrain. Si il fait l'alliance avec la France, peut-être ça marchera. Mais comme ça, sur le terrain, je pense que tout seul, c'est pas facile.
Comme vous êtes à Benghazi, qu'est-ce que c'est de vivre à Benghazi actuellement?
Nous sommes depuis longtemps qu'on vit bien en Libye. C'est tout calme, c'est tout maîtrisé. Je pense que le seul problème actuellement de Benghazi, l'armée, elle veut finir avec cette histoire. Mais autrement, on n'a aucun problème de vivre ici. Hein.
C'était à l'instant le professeur Abdelkader Kadoura à Benghazi, dans l'est de la Libye.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au CES, entendez Salon de l'électronique de Las Vegas, à plusieurs pays y exposent ce dont ils sont capables. On note cependant une faible participation de l'Afrique, à l'exception du Sénégal, qui n'a pas manqué une seule édition depuis 3 ans. Cette année, ses représentants entendent se faire connaître davantage et créer de nouvelles opportunités. Arzuma Compaoré est allé à la rencontre de l'un d'entre eux, Lamine Kébé. Reportage.
Le salon de l'électronique de Las Vegas est considéré comme le plus grand et le plus influent événement technologique au monde. C'est ici que les plus grandes marques font des affaires et que les innovations les plus pointues voient le jour. Et cette année, le nombre de start-up africaines au CES a presque quadruplé. Les délégations venues du Sénégal et du Maroc présentent toute une panoplie de produits et services à la pointe de la technologie, de l'intelligence artificielle à la réalité augmentée, en passant par les outils financiers dédiés au secteur agricole. Les innovateurs africains sont venus réclamer leur place au cœur de la scène mondiale tech. Je m'arrête un instant pour vous proposer de découvrir quelques-uns de ces innovateurs dans le sujet qui suit.
Pour Mouhamadou Lamine Kébé, président et CEO de la start-up Tolbi, tout est parti d'un simple constat.
Les agriculteurs perdent 50 à 80% de l'eau d'irrigation. Ils perdent de l'argent, ils perdent aussi en rendement. Des solutions comme Tolbi vont permettre aux agriculteurs d'économiser en eau, d'économiser aussi en facture d'eau, que ce soit en pétrole pour faire l'irrigation, mais en même temps aussi ça va permettre d'augmenter le rendement, parce qu'aujourd'hui, avec Tolbi, vous donnez exactement ce que la plante a besoin et vous n'aurez ni de stress hydrique ni aussi d'engorgement racinaire.
Grâce à un dispositif appelé Tolbi Sensor, les données du champ sont collectées à travers des capteurs et sont traitées selon des algorithmes bien élaborés qui, selon le type de culture, calculent le besoin en eau et le communiquent à l'agriculteur sur Internet ou par téléphone. Et pour que sa technologie soit plus adaptée, Tolbi va encore plus loin en y ajoutant de l'assistance vocale en langue locale.
Donc Simca, c'est une technologie de voix locale qui permet aux agriculteurs qui font de l'agriculture intensive de pouvoir interagir avec le dispositif en langue locale, que ce soit en Wolof, en Poular ou d'autres langues africaines.
Bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs sénégalais reconnaissent les bénéfices d'une irrigation automatisée, pour Mouhamadou et son équipe, les débuts n'ont pas été faciles.
Au début, amener une technologie à des régions africaines, surtout dans le monde rural, c'était assez difficile. Donc on a très trop compris cela, on a fait des séminaires de formation, on a expliqué aux agriculteurs en quoi vraiment les technologies IoT pouvaient leur aider à développer beaucoup plus, disons, leur domaine d'activité. Et avec des formations d'une semaine, on a su leur convaincre. Aujourd'hui, ils réclament la technologie.
Désormais, pour le jeune ingénieur, il est temps de voir plus grand.
Quand on développait la technologie, on était des étudiants dans des laboratoires. Donc on faisait les cours le matin, le soir, la nuit, on développait sur la technologie. Donc ça nous a pris 1 an en étant à l'école, après 3 mois pour faire de l'exécution rapide. En ce moment-là, c'est terminé. Donc les perspectives, c'est de travailler aujourd'hui avec les business. Ça veut dire faire du B2B, déployer en masse et toutefois aussi faire des levées de fonds.
Et aujourd'hui, est-on tenté de dire, au CES de Las Vegas, ses rêves pourraient bel et bien devenir réalité.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irene Hermanoumba à Washington. Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de VOA Afrique. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.voafrique.com et notre page Facebook VOA Afrique. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.